émission scientifique. Olivier Ridoux, enseignant-chercheur de l'Université de Rennes, et Dominique Malherbe, enseignante et musicienne de violon à l'École de musique de Béton, ont tous les deux mis au point avec 4 étudiants de Rennes le projet iMaestro, un chef d'orchestre numérique visant à remplacer le chef dans les orchestres amateurs qui n'ont pas le luxe d'en avoir un. Tout de suite, on écoute Olivier Ridoux à propos de iMaestro.
Je suis Olivier Ridoux, je suis professeur d'informatique à l'Université de Rennes. J'enseigne différentes matières, on va dire fondamentales de l'informatique, mais j'aime beaucoup aussi enseigner la gestion de projet, ce qui fait que je participe à de nombreux modules qui sont basés sur la forme projet. Et j'essaye d'y mettre le plus possible des choses où il y a un contact avec une réalité extérieure. Donc la réalité extérieure ici, c'est la musique, et parce que je trouve que ça stimule les étudiants à se penser un peu plus que des codeurs, un peu plus que des programmeurs, réfléchir à l'autre en face, réfléchir à ses besoins, à la difficulté de communiquer. Et donc c'est ça qui me mène à faire ce genre de projet. C'est disposé à hauteur d'homme devant l'ensemble, avec le moins de codification possible. Donc en essayant de reposer sur des intuitions. Alors la base, c'est de représenter le tempo et aussi de représenter des alertes pour tous ces événements musicaux où un amateur se trompe, du style les reprises, les démarrages, après 51 mesures de pause. Et voilà. Et tout ça, c'est contrôlé par l'appareil qui est là. Voilà, l'objectif, c'est purement visuel. On n'a pas les gestes et on a des signaux lumineux à la place, qui justement occupent la position symbolique du chef. C'est-à-dire devant l'ensemble, avec aussi cette difficulté que justement le chef s'adresse à la fois collectivement à l'ensemble des musiciens, et puis de temps en temps on fait des signes qui sont dirigés. Alors là, c'est un peu plus difficile de faire des signes dirigés, et du coup on va utiliser la couleur. Et il y aura lors des répétitions, là où d'habitude on fait plein de marques sur sa partition, mais là on pourra convenir, s'il y a une difficulté, que la clarinette démarre sur la marque rouge. Et donc la clarinette va colorier cette mesure en rouge. Quand il verra le signal rouge, ça lui rappellera « Ah, il faut démarrer ». Ou des choses comme ça. On peut aussi indiquer des nuances. Par exemple, souvent, dans un ensemble amateur, on a tendance à oublier les nuances. Et donc, on pourra les rappeler, spécialement là où on a constaté dans les répétitions que c'était toujours mal joué. Pareil pour les reprises, pareil pour tous ces événements où l'amateur, il sait ce que ça veut dire quand il le voit sur une partition. Mais quand il joue, il est tellement concentré sur les notes qu'il a tendance à oublier tout ce qui est interprétation. Le travail de longue haleine qui a commencé il y a plusieurs années. Il y a eu plusieurs prototypes, en général avec des étudiants qui sont recrutés dans les différents projets qu'on peut avoir dans les études d'informatique. On a eu un premier design qui était très verbeux. C'est-à-dire que plutôt que d'avoir une cinquantaine de LED comme actuellement, on avait tout un panneau de LED, et du coup on avait cédé à la tentation d'afficher plein de trucs. Et ça rendait compliqué la lecture, alors que moi ce que je souhaiterais, c'est qu'on puisse avoir une lecture du coin de l'œil, pas être rivé sur le iMaestro pour savoir ce qu'il fait. Et donc là on est revenu à un design beaucoup plus simple en termes d'indication, et j'espère qu'on peut qu'effectivement on pourra l'utiliser avec juste cette lecture latérale d'un coin de l'œil.
C'est vous qui appelez l'inspiration hasard. Vous savez, je ne sais pas ce que veut dire le mot inspiration. Les musiciens l'emploient, mais j'ignore le sens qu'ils lui attribuent. Et je pense qu'ils l'ignorent aussi. Ce n'est pas la première fois que j'ai fait de la musique avec un ordinateur. J'avais essayé auparavant, mais le résultat avait été tellement... Alors je ne m'attendais pas à quelque chose de meilleur, et je pensais même obtenir une musique assez horrible à écouter.
Je suis musicien amateur, je joue dans un ensemble de l'école de musique où j'habite. Et j'ai pu constater ces difficultés. C'est-à-dire que on sait tous lire une partition, mais on sait moins bien l'interpréter. Et on est souvent assez distrait, concentré sur les notes. Et on oublie tout ce qui est plus interprétation. On oublie, typiquement, on oublie les reprises. On a des problèmes à compter les mesures. On sait bien qu'il y en a 51, mais c'est difficile à compter. On a plein de difficultés de ce genre-là. Et là où un chef pourrait signifier en tendant le bras que c'est à un tel de démarrer, quand on est un ensemble sans chef, il y a cette difficulté-là. Et alors, initialement, j'ai toujours pensé que ça pouvait servir soit en répétition, soit en exécution d'un programme. Alors ça, c'est un peu débattu. Par exemple, Dominique, elle est plus sur le côté répétition. Mais j'imagine qu'on pourrait, on pourrait faire un objet de ce genre-là, mais peut-être beaucoup plus visuel, plus joli. Peut-être tu vois, une sorte de totem, quelque chose qui soit de taille humaine et qui pourrait être présenté en scène pendant la représentation d'un morceau. Voilà, on configure le système selon l'œuvre jouée, alors par exemple nombre de mesures, tempo, etc. Des choses qui se voient dans la partition, par exemple des changements de tempo, des choses comme ça. Et puis, normalement on fait que ça, c'est en général très très court à faire. Puis après, ben, on peut travailler. Puis on constate qu'il y a une difficulté ici, là-bas, et à chaque fois on peut rajouter des petites indications qui font faire que le chef, ben, le pseudo-chef, le maestro, prévient ces difficultés. Cet appareil-là, il est sourd et psychorigide. C'est-à-dire qu'il a été programmé pour un certain tempo, pour, on peut commander un changement de tempo si la partition le demande. Mais en tout cas, ce chef ne va pas s'adapter aux fluctuations des musiciens. Et on s'est aperçu que ça crée une difficulté, parce que même quand c'est un humain qui dirige, ben cet humain il est quand même suffisamment bienveillant pour constater qu'on ralentir avec, essayer de ne pas perdre tout le monde. Et alors là, c'est vrai que c'est... par exemple, on a constaté que sur des morceaux qu'on avait travaillés, qu'on avait l'impression de jouer fluidement, régulièrement, et bien quand on l'a joué avec le maestro, tout d'un coup, on se sentait quasiment oppressé, parce que le maestro, il continue tout seul, puis nous, on était un peu en décalage, et on ne savait pas comment rattraper. Du coup, on devait les retravailler un peu moins vite, pour reconstituer un tempo qui soit bien régulier. Pareillement, là où un chef pourrait entendre que par exemple, un amateur, il sait lire les altérations, mais il va les oublier. Par exemple, quand il y a des changements d'altération à la clé, d'un dièse à deux bémol, régulièrement, il y a toujours quelqu'un pour oublier. Là, un chef pourrait faire un sourcil noir, puis lui, il n'entend rien. C'est extrêmement difficile de juste mettre un micro devant un ensemble et puis d'analyser ce qui se passe. C'est pas du tout à leur portée, c'est pas du tout à la portée des moyens qu'on veut mettre en œuvre qui sont extrêmement légers. Donc on se dirige vers une approche beaucoup plus modeste, où par exemple un instrument serait équipé d'un micro, plus ou moins directif, ce qui fait que cet instrument serait vraiment singularisé par rapport aux autres, on n'aurait pas à le séparer de ses voisins et tout ça. On prendrait évidemment un instrument qui ferait plus la rythmique que la mélodie par exemple. L'idée, après, c'est de faire ce qu'on appelle du traitement du signal, du son qu'on entend de cet instrument, pour soit s'adapter à son tempo, soit avoir un signal un peu directif, un signal lumineux un peu directif pour dire accélère un peu, voilà, pour des choses comme ça. Alors là, on est en pleine prospective. C'est-à-dire que ça va sûrement dépendre de la qualité du micro, ça va sûrement dépendre de plein de trucs dont on a juste le sentiment que ces choses-là vont jouer, mais il nous faut maintenant faire des tas d'expériences pour trouver les bons algorithmes, trouver les bonnes choses, trouver la bonne façon de communiquer ensuite à l'instrumentiste. On a tout un champ là, de choses à vérifier, de choses à observer, d'expérimentations à faire. Ça va durer pendant à peu près un an.
Nous avons affaire à un ensemble, qui est l'ensemble instrumental de France, un ensemble de chambres, dont la caractéristique est de jouer sans chef. Est-ce qu'il a raison? Est-ce qu'il a tort? Voilà le problème que nous avons arbitré.
Il y a des développements qui sont projetés avec des étudiants pour le rendre un peu moins sourd. qu'il entende ce qui se passe. Donc par exemple, on peut imaginer qu'un instrument qui est chargé du tempo, un instrument grave, soit équipé d'un micro pour que le maestro l'entende particulièrement et puis puisse constater l'adéquation entre ce que l'instrument joue et ce qui était demandé. Et plutôt que de continuer obstinément à son tempo qui n'est vraiment pas celui de l'ensemble, puisse s'adapter. Alors on sent qu'il ne faut pas aller trop loin dans cette direction-là parce que sinon il ne servirait plus à rien d'avoir un maestro. Mais on va avoir cette souplesse-là. Et de la même façon, par exemple, pour tout ce qui est mode et tout ça, repérer que sont jouées des notes qui ne sont pas dans le mode qui est joué et y réagir. Mais à nouveau avec subtilité, parce qu'il y a peut-être des dissonances qui sont là introduites délibérément et qu'il faut bien jouer, évidemment. Mais on peut penser que sur plein de musiques assez traditionnelles, tout se joue dans le mode. On pourrait comme ça repérer des fausses notes et puis faire une petite alerte.
Aussi agréable ce quatuor soit-il à entendre, nous pouvions prévoir qu'il ne représenterait pas un grand moment de l'histoire de la musique. Car après tout, ce que Lambert Mertens a donné à son ordinateur, ce ne sont que les trucs du métier, et ce serait certainement une erreur grossière que de réduire la musique à des notions classiques d'harmonie. Mais la frontière entre le savoir-faire et la création, entre la compilation et l'art, est-elle aussi nettement tracée? Comme à Belgrade, c'est là toute la question.
Je pense que ça fait partie des champs d'expérimentation possibles. Alors actuellement, on parle beaucoup d'intelligence artificielle, donc on associe l'intelligence artificielle avec différentes activités. Mais en fait, de la composition algorithmique, on en a fait depuis fort longtemps, en essayant soit par exemple de comprendre des règles de composition de tel ou tel musicien, et puis les appliquer un petit peu aléatoirement pour générer du nouveau Mozart ou du nouveau Bach. Oui, moi j'y crois. Je crois pas qu'il s'agisse de remplacer les humains. Il ne s'agit pas non plus de transhumanisme. Il s'agit de jouer avec un instrument nouveau, d'essayer d'en tirer parti sous toutes ses formes. Oui, avec la MAO, on peut inventer de nouvelles mélodies, mais on peut carrément inventer de nouveaux sons, de nouvelles façons dont le son est organisé. On peut faire beaucoup de choses. Et je ne pense pas que dans le passé, les gens se soient privés d'utiliser des nouveaux matériaux, d'utiliser des nouveaux systèmes de clés pour les instruments, etc. Il y a toujours eu de l'innovation. Il n'y a aucune raison que ça s'arrête maintenant. Peut-être qu'on l'a déjà fait, finalement, avec un instrument, surtout un instrument qu'on porte très près de soi, fait un peu partie de soi, il me semble. Quand il y a du souffle, c'est quelque chose qui va de soi vers l'instrument. Je pense que c'est déjà fait, finalement, pour une part. Et oui, je pense que la flûte est indissociable du flûtiste. Et même si on peut de loin voir deux objets différents, mais je pense que la relation est vraiment très intime. Alors évidemment, c'est pas des implants, c'est pas de. Puis la flûte reste finalement un bel objet, le violon reste un bel objet en soi, alors que un ordinateur paraît être moins un bel objet, donc c'est peut-être qu'il paraît plus étranger, mais je suis pas sûr que ça soit. Alors, je suis pas en train de dire qu'il faudrait se mettre des implants et tout ça. Mais pense réellement qu'on peut collaborer avec des entités machines tout en conservant ses distances mais en ayant une collaboration fructueuse. Donc voilà. Et comme le cycliste et son vélo. J'ai jamais fait cette distinction-là. Ça me paraît naturel. Je sais bien que c'est pas les premières choses auxquelles on pense. On peut avoir souvent une vision un petit peu plus opérationnelle. Et puis effectivement, il faut former les étudiants à des choses, à des outils et tout ça. Mais dès qu'on a l'occasion de s'échapper de ça, je trouve que les projets, c'est une énorme occasion. On peut faire des projets de ce genre-là, mais on peut faire aussi des projets en relation avec d'autres activités humaines, alors, l'architecture, le sport, etc. Il y a plein de possibilités de combiner un service, on va dire, de nature informatique, électronique, avec une utilisation dans les activités humaines. Dans la dernière génération, il y avait 4 étudiants. Il y a une autre génération avant où ils étaient je ne sais plus, 8-10. J'insère ça dans l'organisation des projets pédagogiques. Bah, évidemment, on s'adapte à la géométrie de ces projets. Donc là, dans la dernière version, il y avait 4 étudiants qui étaient en tout cas des étudiants africains, alors qui découvraient ce genre de pratique musicale. Et d'ailleurs, eux-mêmes n'étaient pas du tout musiciens. Bah, c'était intéressant pour eux de venir nous voir à l'école de musique, de se confronter avec les musiciens pour savoir si telle chose était acceptable ou pas. Et ça leur a plu, je crois, de participer à ça. En tout cas, ils l'ont fait avec un engagement que je salue, parce que c'était vraiment... ils ne se sont pas laissés démonter. Ils n'ont pas eu trop à se projeter sur les envies d'un musicien. J'étais un peu là pour en parler. Mais c'était quand même un dialogue, parce qu'ils proposaient des choses. Par exemple, ce design avec des cercles concentriques n'est pas apparu immédiatement. On est parti d'une envie, et puis on en a conçu les détails de la réalisation progressivement. Terme, je trouve que ça pourrait devenir un objet artistique en lui-même. Si par exemple, comme je le disais tout à l'heure, on fait un objet vraiment massif, très visuel, qui pourrait être une sorte de totem lumineux, qui en soi mériterait d'être vu, un peu comme j'imagine que dans une salle de concert, les gens regardent le chef aussi. Même si on ne le voit que de dos, on perçoit ses mimiques, on perçoit ses mouvements, on en voit qui sont très expressifs, d'autres qui sont très statiques. Ben là, je pense qu'on pourrait imaginer que ce soit finalement un acteur du spectacle. Évidemment, on ne va pas le contempler pendant des heures, mais j'imagine que ça peut finalement être un élément de mise en scène.
C'était Olivier Ridoux à propos de I Maestro, projet sur lequel il a collaboré avec Dominique Malherbe et 4 étudiants de Rennes 1. Syllab remercie notamment Maria Gilbert qui a permis la mise en contact avec l'enseignant-chercheur.
Le Labomatique,
l'émission scientifique